Audible Studio présente Les Aventuriers de la Mer, tome 6 L'éveil des eaux dormantes de Robin Hobb, traduit de l'anglais par Véronique David Maresco, lu par Vincent Deboire. Plein été. Chapitre 1 L'anneau d'or. Le nœud s'était agrandi. Malkin semblait en tirer fierté et satisfaction. Shriver était plus partagé. Si l'effectif élargi de serpents qui voyageaient désormais avec eux leur assurait une meilleure protection contre les prédateurs, il en résultait qu'ils devaient se répartir la nourriture. Elles s'en seraient trouvées mieux s'ils avaient été plus nombreux à être doués de sensations, mais la plupart de ceux qui suivaient le nœud n'étaient que des bêtes sauvages que l'instinct seul poussait à se regrouper. Durant le déplacement et la chasse, Malkin observait attentivement les serpents sauvages. Celui qui manifestait des signes prometteurs était capturé quand le nœud faisait halte pour se reposer. D'ordinaire, Kelaro et Sessurea maîtrisaient la cible choisie, la plaquaient au fond et la laissaient se débattre contre leur poids et leur force conjuguées jusqu'à la suffocation. Alors, Malkin les rejoignait, lâchait ses toxines et dansait en ondulant à travers les méandres de la mémoire, tandis qu'ils exigeaient du nouveau venu qu'il se rappelât son nom. Les résultats étaient plus ou moins heureux. Ceux qui se souvenaient de leur nom n'étaient pas tous capables de le retenir longtemps. Certains demeuraient simples d'esprit ou reprenaient leurs habitudes bestiales dès la marée suivante. Mais d'autres, plus rares, recouvraient leur raison et s'accrochaient à une pensée plus élevée. Il en était même qui suivaient le nœud sans but durant plusieurs jours et qui subitement se rappelaient leur nom et leur manière civilisée. Le noyau du groupe totalisait à présent 23 serpents, alors que plus du double traînait derrière eux comme des ombres. C'était un grand nœud. Le plus généreux des pourvoyeurs n'aurait pu y suffire. À chaque halte, ils méditaient sur leur avenir. Les réponses de Malkin ne les contentaient que rarement. Il s'exprimait aussi simplement que possible, et pourtant ses paroles restaient confuses. Shriver devinait la propre perplexité de leur prophète. Elle ressentait de la pitié pour lui. Parfois, elle craignait que les autres, dans leur déception, ne se retournent contre lui. Elle regrettait presque le temps où ils n'étaient que tous les trois, Sessurée à Malkin et elle, à chercher ses réponses. Quand un soir, en chuchotant, elle confia ce regret à Malkin, il la réprimanda. « Notre peuple a diminué. La confusion nous assaille de toutes parts. Si nous voulons survivre, nous devons rassembler autant de nos semblables que possible. Il faut que naisse une multitude afin que quelques-uns survivent. »« Naître ?» dit-elle. Sa question était implicite. La recombinaison des vies passées et des nouvelles, c'est cet appel que nous entendons tous. Notre vie de serpent est révolue. Nous devons trouver celle qui se souvient. Elle nous guidera vers le lieu où nous chercherons à renaître sous une forme nouvelle. Ces paroles la firent frémir de tout son corps, mais elle n'aurait su dire si c'était d'impatience ou d'effroi. Les autres s'étaient approchés pour écouter. Leurs questions fusèrent comme des caplans sur les flots au clair de lune.
« Sous quelle forme ?
Comment peut-on renaître ?
Pourquoi notre temps est-il révolu ?
Qui va se souvenir pour nous ?»
Les grands yeux cuivrés de Malkin roulaient lentement dans leurs orbites. Des ondes de couleurs se propageaient sur son corps. Il luttait. Elle le sentait et se demandait si les autres le sentaient de même. Il faisait d'immenses efforts pour sortir de lui-même, atteindre à la connaissance et en rapporter des fragments décousus. Cela l'épuisait davantage qu'une journée de voyage. Shriver devinait en outre qu'il était aussi mécontent que les autres de ses réponses incomplètes.
« Nous serons ce que nous avons été jadis. Les souvenirs que vous ne pouvez comprendre, les rêves qui vous effraient proviennent de cette époque. »
quand ils vous viennent, ne les chassez pas, méditez-les, approfondissez-les au grand jour et partagez-les avec les autres. » Il marqua une pause et reprit avec plus de lenteur et d'hésitation. « Voici longtemps que nous aurions dû changer, trop longtemps. Je crains qu'il ne soit advenu quelque chose de terrible. Quelqu'un se souviendra pour nous. Les autres vont venir nous protéger et nous guider. Nous les reconnaîtrons. Ils nous reconnaîtront. »
« La pourvoyeuse argentée, » demanda Sessuréa à mi-voix. « Nous l'avons suivie, mais elle ne nous a pas reconnus. »
Silic se tordit, mal à l'aise, au cœur du nœud en repos.
« Argentée, gris argent, » siffla-t-il. « Tu te rappelles, Kélaro ? Xécrès a trouvé la grande créature gris-argent et nous a ordonné de la suivre. »
« Je ne me rappelle pas, »
trompeta Kélaro doucement. Il ouvrit et referma ses immenses yeux argentés. Il roulait en changeant de couleur.
« Encore que, peut-être, comme un rêve, un mauvais rêve. »
Elle nous a attaqués quand nous nous sommes regroupés autour d'elle. Elle nous a lancé de longues dents.
Silic se noua lentement sur lui-même et s'immobilisa en découvrant sur son corps une profonde cicatrice. Les écailles qui la recouvraient étaient épaisses et inégales.
« Elle m'a mordu ici !»
chuchota le serpent rouge d'une voix rauque.
« Elle m'a mordu, mais elle ne m'a pas dévoré !»
Il se retourna, plongea les yeux dans les yeux de Kélaro comme pour y chercher une confirmation.
« Tu as arraché les dents qui étaient restées plantées dans ma chair. Elles m'avaient transpercé et la plaie suppurait. »
Kélaro baissa les paupières.
« Je ne me rappelle pas, »
répondit-il à regret. Des ondes parcoururent le corps de Molkin. Voilà longtemps que ses ocelles n'avaient pas brillé avec autant d'éclat.
« La créature argentée t'a attaqué ?»
questionna-t-il incrédule.
« Elle t'a attaqué ?»
Un courant de colère bouillonnait dans sa voix.
« Comment se pourrait-il que celle qui répand l'odeur des souvenirs se retourne contre ceux qui viennent lui demander secours ?»
Il agita violemment sa grande tête d'avant en arrière, la crinière dressée sous l'afflux des toxines.
« Je ne comprends pas !»
mugit-il soudain.
« Aucun souvenir de cela, pas même le goût d'un souvenir. Comment une chose pareille peut-elle se produire ? Où est celle qui se souvient ?»«
Peut-être ont-ils oublié ?»
dit Conteur avec un humour noir. Le serpent ménestrel, vert et fluet, n'avait guère pris de force depuis qu'il s'était souvenu de son nom. L'effort qu'il déployait pour conserver son identité semblait consumer toute son énergie. Comment était-il avant d'avoir oublié qui il était? Nul n'aurait su le dire. Aujourd'hui, c'était un guide austère, à la langue bien affilée. Il avait beau se rappeler qui il avait été, il n'arrivait que rarement à chanter.
Molkin fouetta de la queue pour lui faire face. Sa crinière était hérissée, ses couleurs ondoyaient.
« Ils ont oublié ?»
rugit-il d'étonnement et d'indignation.
« L'as-tu vu dans un rêve ou dans un souvenir ? Te rappelles-tu un chant qui parle d'un temps où tous oublient ?»
Conteur lissa sa crinière sur son poitrail, réduisant ainsi sa taille et son importance. « C'était une plaisanterie, seigneur. La mauvaise plaisanterie d'un ménestrel aigri, j'en demande pardon. »
« Une plaisanterie qui contient peut-être un grain de vérité. Nous sommes nombreux à avoir oublié. Se pourrait-il que ceux qui se souviennent, nos gardiens de mémoire, aient également failli à leur tâche ?»
Un silence découragé accueillit sa question. S'il en était ainsi, cela signifiait qu'ils étaient abandonnés. Ils n'avaient d'autre avenir que l'errance jusqu'à ce que leur esprit décline et s'obscurcisse. Les serpents se serrèrent l'un contre l'autre plus étroitement, se raccrochant au maigre espoir qui leur restait. Molkin s'arracha brutalement du nœud.
Il décrivit un immense cercle et entama une série de voltes lentes.
« Réfléchissez avec moi !»
les exhorta-t-il.
« Voyons si cela peut être vrai. Voilà qui expliquerait beaucoup de choses. Cesurea, Shriver et moi avons vu un être gris-argent qui avait l'odeur de celle qui se souvient. Elle nous a ignorés. Kelaro et Silic ont vu un animal gris-argent. Canxeres, le chef de leur nœud, a cherché des souvenirs auprès de lui, il les a attaqués. »
Brusquement, il fit volte-face vers les autres.
« Est-ce si différent de la façon dont vous vous êtes comportés tous quand vous aviez perdu vos souvenirs ? Vous vous ignoriez mutuellement, vous ne répondiez pas à mes questions. N'êtes-vous pas allé jusqu'à attaquer vos frères quand vous vous disputiez la nourriture ?»
Il s'arc-bouta en arrière, dévoilant son ventre blanc et passa devant eux comme l'éclair.
« C'est tellement évident » trompeta-t-il. « Le ménestrel a vu juste. Ils ont oublié. Nous devons les forcer à se souvenir de nous. »
Le nœud était silencieux, frappé de crainte respectueuse. Même les serpents dépourvus d'intelligence qui se regroupaient au hasard en nœuds durant les temps de repos s'étaient séparés pour contempler la danse jubilatoire de Molkin. L'émerveillement qui brillait dans tous les regards fit honte à Shriver, mais ses doutes étaient trop forts. Elle les exprima à voix haute.
« Comment ? Comment pouvons-nous les forcer à se souvenir de nous ?»
Soudain, Molkin fonça sur elle. Il la serra, l'enveloppa et l'arracha au nœud pour qu'elle l'accompagne dans sa danse sensuelle. Elle goûtait à ses toxines en glissant à ses côtés. Ils étaient ivres de joie, grisés de liberté.
« Tout comme nous avons réveillé les autres, nous allons en repérer un, l'affronter et exiger qu'il dise son nom. »
Tandis qu'elle dansait avec lui, enlacée, enivrée, il avait été si facile de croire la chose possible. Il chercherait l'une de ces créatures argentées qui avaient l'odeur des souvenirs, la forcerait à se rappeler son but, à partager ses souvenirs avec eux. Et alors ils seraient tous sauvés, d'une façon ou d'une autre. À présent, en regardant la forme qui passait entre eux et la lumière, elle doutait. Voilà des jours qu'ils cherchaient un être argenté. Dès qu'ils avaient perçu son odeur, Molkin n'avait autorisé que de brèves haltes. La poursuite assidue en avait épuisé certains. Le mince compteur avait perdu poids et couleur. De nombreux serpents sauvages étaient restés à la traîne quand Molkin avait forcé l'allure. Peut-être les rattraperait-il plus tard. Peut-être ne les verrait-on plus. Pour l'heure, Shriver ne songeait qu'à l'énorme créature qui se déplaçait au-dessus d'eux. Le nœud traînait dans son ombre. Maintenant qu'il l'avait rattrapé, même Molkin semblait découragé par l'ampleur de la tâche. Par sa masse, l'être argenté les surpassait de loin. Et il était de même taille que Kelaro.
« Qu'allons-nous faire maintenant ?»
demanda Compteur brusquement.
« Nous ne pouvons pas nous enrouler autour d'une créature pareille pour l'entraîner au fond. Autant lutter avec une baleine. »
« En réalité, ce ne serait pas impossible, »
fit observer Kelaro avec l'assurance que lui donnait sa taille. Il dressa sa crinière de manière belliqueuse.
« Il faudrait se battre, mais nous sommes nombreux, nous aurions le dessus. »« D'abord, nous éviterons d'user de violence, »
déclara Molkin. Shriver le vit rassembler ses forces. Parfois, il lui semblait que l'étincelle de sa vitalité flambait comme jamais, mais que son être physique diminuait d'autant. Elle aurait voulu le convaincre de se ménager, mais mieux valait s'abstenir de ranimer cette éternelle discussion. Le prophète s'étira de tout son long. Une brève ondulation parcourut son corps, faisant briller ses ocelles comme de l'or. Lentement, sa collerette s'épanouit sur son poitrail, jusqu'à ce que chaque piquant de sa crinière soit hérissé et gonflé de venin. Ses grands yeux cuivrés roulaient avec détermination.
« Attendez que je vous appelle !»
ordonna-t-il. Et il les quitta pour nager vers l'immense forme argentée. Il ne s'agissait pas d'un pourvoyeur.
Il n'était pas souillé de sang et de déchets, caractéristiques des mastodontes qui leur octroyaient la chair fraîche. Celui-ci se déplaçait plus rapidement, bien que Shriver ne puisse distinguer ni aileron ni nageoire. Il avait un unique appendice en forme de nageoire au bas de son ventre rond, mais il ne paraissait pas s'en servir pour avancer. Il glissait sans effort à travers le plein, et la partie supérieure de son corps se chauffait au soleil du manque. Molkin régla sur lui son allure. La créature semblait dépourvue d'ouïe, d'yeux et de crinière, mais Molkin la héla néanmoins.
« Le nœud de Molkin te salue. Nous avons fait un long voyage en quête de celle qui se souvient. N'es-tu pas celle-là ?»
Elle ne manifesta d'aucune façon qu'elle l'avait entendue. Sa vitesse ne varia pas. Son odeur ne changea pas, comme si elle ignorait complètement la présence du serpent. Durant un moment, Molkin se maintint à son allure et attendit patiemment. Il répéta son salut, sans plus de résultat. Brusquement, il cingla de la queue pour augmenter sa vitesse et se placer en avant de l'être argenté. Puis, dans une vibrante secousse de sa crinière, il lâcha un nuage paralysant de toxines. La créature le traversa sans même ralentir, apparemment indifférente au poison. Ce fut seulement après son passage que Shriver sentit quelque chose émaner d'elle. Un frissonnement du corps argenté, une vague odeur de malaise. Mais la réaction, aussi faible fut-elle, lui redonna courage. L'être argenté pouvait feindre de les ignorer, mais il avait tout de même conscience de leur présence. Molkin ressentit la même chose car il fouetta l'eau en face de la créature qui était forcée de faire halte ou de le heurter.
« Je suis Molkin, du nœud de Molkin. J'exige de connaître ton nom. »
Elle fonça sur lui. Elle passa dessus comme si le serpent avait été du varech. Mais Molkin n'était pas du varech qu'on écarte négligemment.
« J'exige de connaître ton nom !»
beugla-t-il. Il se jeta de tout son long sur l'être argenté. Son nœud le suivit. Malgré tous leurs efforts, ils ne purent l'envelopper. Ils ne firent que le pousser et le heurter. Kellaro le bleu le percuta et lui asséna un coup qui faillit l'assommer lui-même, tandis que Sessuréa défonçait l'unique nageoire. Tous, ils lâchèrent leurs plus virulentes toxines, de sorte qu'ils traversaient des nuages de leur propre poison. L'immense créature fut ralentie et déroutée par l'attaque. Elle hésita. Shriver entendit une lamentation stridente. Chantait-elle dans le manque, même en plein soleil ? Désorientée et haletante sous le déferlement de toxines, elle monta et pointa la tête dans le manque. Là, elle découvrit la face de l'animal et ses nageoires qui ne ressemblaient à rien de ce qu'elle connaissait. Il n'avait pas de crinière, mais déployait au-dessus de lui de grandes ailes blanches, comme une mouette qui se repose à la surface du plein. Son corps était infesté de parasites qui sautillaient, s'accrochaient à sa partie supérieure et à ses ailes en poussant des cris aigus. Quand ils l'aperçurent, leur agitation redoubla. Enhardie, elle se redressa autant qu'elle put. Elle se jeta à la tête de la créature grise.
« Qui es-tu ? »
trompeta-t-elle. Elle secoua sa petite crinière en le cinglant de ses cellules brûlantes, l'éclaboussant de toxines.
« Dis ton nom ! Shriver, du nœud de Molkin exige que tu te souviennes !»
L'animal cria quand le poison l'atteignit. Il porta ses nageoires à sa face et se gratta. Les parasites affolés sautaient sur son dos, hurlant de leur voix ténue. Brusquement, il se pencha loin en avant. Shriver crut qu'il allait plonger pour lui échapper, mais elle s'aperçut qu'il n'agissait pas de son propre chef. Molkin avait réuni tous les efforts de son nœud. Leurs forces combinées le poussèrent et le firent rouler sur un flanc. Son aile blanche frôla l'eau. Un parasite tomba dans le plein avec un bourdonnement déchirant. L'un des serpents sauvages bondit en avant pour le happer au vol. Ils ne se le firent pas dire deux fois. Le banc tout entier convergea vers l'être argenté. Avec une violence que Molkin n'avait sûrement jamais voulu, ils s'abattirent sur lui et le secouèrent. Il poussa des cris éperdus et fit des moulinets avec ses nageoires, déployant des efforts frénétiques pour frapper ses agresseurs.
ce qui ne fit qu'exacerber la rage des serpents sauvages. Ils ajoutèrent leurs toxines désordonnées à celles qui obscurcissaient déjà le plein. Les substances destinées à paralyser les poissons et à repousser les requins assaillaient les sens de Shriver. Les serpents sauvages faisaient le plus gros du travail à présent. Alors que Molkin et son nœud décrivaient des cercles autour de la créature assiégée de toutes parts, en lui demandant sans cesse son nom. Les parasites étaient de plus en plus nombreux à tomber comme des pierres dans l'eau. Les grandes ailes blanches de l'animal battaient furieusement en trempant dans le plein, d'abord d'un côté puis de l'autre. Enfin, quand la créature fut presque complètement couchée sur le flanc, Kelaro s'élança de toute sa taille gigantesque hors du plein. Il s'écrasa sur le flanc exposé de l'animal. Les autres serpents s'y agglutinèrent rapidement, les sauvages comme les conscients. Certains bondirent pour saisir ses membres raides et ses ailes palpitantes. Il tenta de se redresser, mais il succombait sous leur nombre et leur poids, entraîné vers le bas, loin du manque, plus profond dans le plein. Alors qu'il était tiré par le fond, les parasites essayaient de sauter loin de lui, mais des mâchoires claquantes les attendaient.
« Ton nom !»
insistait Molkin tout au long de la descente.
« Dis-nous ton nom !»
La créature beuglait et gesticulait follement sans prononcer un mot. Molkin fonça sur elle, s'enroula autour de sa partie avant. Il lui secoua sa crinière en pleine face et dégorgea un épais nuage de toxines.
« Parle ! »
ordonna-t-il.
« Rappelle-toi pour nous. Dis-nous ton nom. Comment t'appelais-tu ? »
L'animal se débattait. Sa petite tête et ses membres se convulsaient dans l'étreinte de Molkin, alors que la masse disproportionnée de son corps restait raide et inflexible. Certains de ses petits membres frêles se brisèrent tandis que ses ailes trempées s'alourdissaient. Pourtant, il continuait à lutter pour remonter à la surface du plein. Ils ne purent le tirer tout au fond, bien que le nœud réussît à le maintenir sous le manque.
« Parle-nous !»
ordonna Molkin.
« Un seul mot, ton nom, simplement, et on te laissera partir. Essaie de te souvenir, remonte en arrière. Tu le connais, nous savons que tu le connais. Nous pouvons sentir l'épaisseur de tes souvenirs. »
Il s'abattit furieusement sur le prophète. Sa bouche béait et s'étirait avec les sons qui restaient incompréhensibles. Puis soudain, il s'immobilisa. Ses petits yeux bruns s'élargirent. Il ouvrit tout grand la bouche, une fois, deux fois. Puis il se détendit brusquement. Shriver baissa les paupières. La créature argentée était morte. Il l'avait tué pour rien. Alors elle se mit à parler. Shriver reporta brusquement son attention sur elle. Sa voix était fluette, presque désincarnée. De ses membres grêles, elle chercha à embrasser le corps épais de Molkin.
J'étais Drakius. Je ne le suis plus. Je suis une chose morte qui parle par la bouche des souvenirs.
Sa trompette était aiguë et faible, à peine audible. Impressionné, le nœud s'immobilisa et se resserra. Drakius poursuivit.
C'était le temps du changement. Nous avions remonté le fleuve loin en amont, là où le limon de la mémoire était épais et beau. Nous avons confectionné nos cocons en nous enrobant de fils tissés de mémoire. Nos parents nous ont baignés du limon des souvenirs, nous ont donné nos noms et leurs souvenirs. Ils veillaient sur nous, nos vieux amis. Ils ont fêté le temps du changement sous le bleu du firmament. Ils se sont réjouis quand nous avons quitté le fleuve pour nous vautrer sur les berges ensoleillées, afin de laisser la lumière et la chaleur sécher nos cocons, tandis que nous nous métamorphosions.
Ils nous ont enveloppés, couche après couche, de souvenirs et de limons. C'était une saison de joie. Nos parents emplissaient le ciel de leurs couleurs et de leurs chants. Nous devions nous reposer durant la période froide pour nous réveiller et émerger quand les jours se réchaufferaient et s'allongeraient. Il ferma ses petits yeux. On aurait dit qu'il souffrait. Il s'accrochait à Molkin comme s'il faisait partie de son nœud. Puis, le monde a basculé. La terre a tremblé et s'est ouverte. Les montagnes même se sont fracassées, ont exsudé un sang rouge et brûlant. Le soleil s'est obscurci. Même à l'intérieur de nos cocons, nous l'avons senti s'éteindre. Nous avons entendu les cris de nos amis quand les vents chauds qui soufflaient sur nous chassaient l'air de leurs poumons. Pourtant, alors même qu'ils tombaient, haletants, ils ne nous ont pas abandonnés. Ils nous ont traînés à l'abri, de multiples vies se sont écoulées depuis. Ils n'ont pas pu sauver nombre d'entre nous, mais ils ont essayé, je dois le reconnaître, ils ont essayé. Ce n'était que pour un temps, ont-ils promis. Jusqu'à ce que la poussière cesse de pleuvoir, jusqu'à ce que les cieux redeviennent bleus, jusqu'à ce que la terre cesse de trembler. Mais elle n'a pas cessé. La terre tremblait chaque jour et les montagnes s'embrasaient. La forêt a brûlé et les cendres tombaient partout, étouffaient tout, empâtaient les eaux du fleuve qui coulaient plus épais que le sang. L'air en était chargé. Et quand les cendres se sont déposées, elles ont recouvert toute forme de vie. Nous les avons appelées de l'intérieur de nos cocons, mais après un temps, elles n'ont plus répondu. Sans le soleil, nous ne pouvions éclore. Nous reposions dans de profondes ténèbres, enveloppés dans nos souvenirs, et nous avons attendu.
Le nœud et son escorte étaient silencieux. Il restait sur place, drapé sur les membres roides et les ailes de Drakius, enroulé autour de son corps massif. Molkin lui souffla à la face un fin nuage de toxines.
« Continue !»
ordonna-t-il avec douceur.
« Nous ne comprenons pas, mais nous écoutons. »«
Vous ne comprenez pas ?»
Il eut un rire grêle.
« Moi, je ne comprends pas. » Très longtemps après, d'autres gens sont venus. Ils ressemblaient à ceux qui avaient essayé de nous sauver sans leur ressembler. Nous les avons appelés joyeusement, certains qu'ils venaient enfin nous délivrer de l'obscurité. Mais ils n'ont pas voulu nous écouter. Ils ont dédaigné nos voies immatérielles, nous ont chassés de leurs pensées comme si nous étions moins réels encore que des rêves. Puis, ils nous ont tués.
Shriver sentit son espoir s'amenuiser.
J'ai entendu les cris de Terea. Je n'ai pas compris ce qu'il se passait. Elle était avec nous, et puis, elle a disparu. Le temps a passé. Puis, ils m'ont attaqué. Des outils ont mordu dans mon cocon et l'ont fait éclater alors qu'il était encore lourd et épais, fort de mes souvenirs. Alors,
sa voix se fit embarrassée.
Ils ont jeté mon âme sur la pierre froide où elle est morte. Mais les souvenirs ont demeuré, pris dans les couches du cocon. Ils m'ont scié en planches avec lesquelles ils ont fabriqué un nouveau corps. Ils m'ont refait à leur image, en creusant jusqu'à me façonner un visage, une tête et un corps semblables aux leurs. Puis ils m'ont noyé dans leurs propres souvenirs jusqu'à ce que je m'éveille un jour et j'étais un autre. Ils m'ont appelé l'anneau d'or. Voilà ce que je suis devenu. Une vive nef, un esclave.
Le silence se répandit sur eux tous quand il se tut. Il avait employé des mots que Shriver ne connaissait pas, parlé de choses qu'elle ne saisissait pas. Elle fut glacée d'effroi. Elle savait qu'il s'agissait d'une histoire prodigieuse, l'histoire de la disparition de sa race,
mais elle en ignorait la raison. Elle se réjouissait presque de ne pouvoir comprendre la tragédie.
Molkin, toujours enroulé autour de Dracius, avait baissé les paupières. Ses couleurs étaient d'une pâleur maladive.
« Je vais te pleurer, Dracius. Ton nom éveille des échos dans mon âme. Autrefois, je crois, nous nous connaissions. Mais aujourd'hui, nous devons nous séparer comme des étrangers immémoriaux. Nous allons te laisser partir. »
« Non, je t'en prie. »
Les yeux de Dracius s'élargirent. Il essaya de s'accrocher à Molkin.
« Ne me lâche pas. Tu as dit mon nom et il sonne dans mon cœur comme le clairon du dragon de l'aube. Pendant si longtemps, j'ai oublié qui j'étais. Ils m'ont toujours gardé avec eux. Ils m'ont privé de solitude. Ils ont empêché mes anciens souvenirs de remonter à la surface. Couche après couche, ils ont appliqué sur moi leur petite vie jusqu'à ce que je finisse par croire que j'étais l'un d'eux. Si tu me laisses partir, ils vont me récupérer. Cela recommencera et ne finira peut-être jamais. »
« Nous ne pouvons rien pour toi, » dit Molkin tristement. « Nous ne pouvons rien pour nous-mêmes. Je crains que tu nous aies raconté la fin de notre propre histoire. »«
Défais-moi, »
supplia Dracius de sa petite voix frêle.
« Je ne suis rien d'autre que la mémoire de Dracius. » S'il avait survécu, il aurait été l'un de vos guides, il vous aurait conduit au pays. Mais il n'est plus. Je suis tout ce qui subsiste de lui, pauvre carcasse d'une vie. Je ne suis que réminiscence. Rien de plus, Molkin, du nœud de Molkin. Je suis une histoire. Et cette histoire, il ne reste personne pour la raconter. Alors approprie-toi mes souvenirs. Si Dracius avait survécu à sa métamorphose, il aurait dévoré son cocon et aurait rappelé à lui tous ses souvenirs. Mais il n'est plus. Alors prends-les. Conserve les souvenirs de celui qui est mort avant d'avoir pu trompeter son nom dans les cieux. N'oublie pas Dracius.
Molkin baissa les paupières de ses grands yeux cuivrés.
« Je ne serai qu'un piètre réceptacle, Dracius. Nous ne savons pas combien de temps nous pourrons survivre. »
« Alors prends ma vie et tire-en force et utilité. »
Il relâcha son étreinte et croisa ses membres grêles sur sa poitrine étroite.
« Délivre-moi. »
Ils finirent par lui obéir. Ils le broyèrent, le déchirèrent, le mirent en pièces. Une partie de son corps, comme ils le découvrirent avec horreur, n'était constituée que de lamelles de plantes mortes. Mais tout ce qui était argent, qui exhalait une odeur de souvenance, ils s'en emparèrent et le dévorèrent. Molkin avala la partie en forme de tête et le devant du corps. Shriver n'eut pas l'impression que Dracius souffrait car il ne cria pas. Molkin insista pour que tous goûtent au souvenir. Même les serpents sauvages furent subtilement encouragés à se joindre au partage. Les fils argentés de ses souvenirs étaient secs et longs et raides et durs. Quand Shriver saisit sa portion dans ses mâchoires, elle fut étonnée de la sentir s'amollir et fondre. Alors qu'elle avalait, les souvenirs naquirent en elle avec clarté. Comme si, d'une eau trouble, elle était passée dans une onde limpide. Des images éteintes d'une autre époque lui apparurent et se mirent à rayonner de couleurs et de détails. Elle baissa les paupières, extasiée, et rêva de vent sous ses ailes.